Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Quelle chance nous avons de vous présenter aujourd'hui cet échange avec le docteur Arnaud Pserdorf pour parler de l'évolution du rôle de pédiatre à travers le temps. Pédiatre, chroniqueur à la Maison des Maternelles sur France 4, auteur à succès avec notamment son dernier ouvrage « Votre enfant de 0 à 16 ans » aux éditions Attier, fondateur de Pédiatre Online. Vous l'aurez compris, Arnaud œuvre tous les jours pour transmettre ses savoirs si précieux sur les enfants. Nous avons parlé aujourd'hui de voyages, d'émotions, de douleurs, d'angoisses et surtout des pouvoirs insoupçonnés des enfants, notamment face à la maladie. Cet épisode était particulièrement fort pour nous qui avons vécu la maladie de ma grande sœur Noémie, une leucémie. On espère que vous apprendrez autant que nous et que vous passerez un aussi beau moment que celui qu'on a vécu avec Arnaud. Très bonne écoute. Bonjour Arnaud.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Sylvie.
Merci beaucoup de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler de votre beau métier de pédiatre. Et on est super contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors avant que l'on parle de tout ça, j'aimerais bien qu'on démarre avec votre parcours et le choix de ce métier. Pourquoi, il y a plusieurs années, vous avez décidé de vous orienter vers la pédiatrie?
C'est une question qui m'arrive de me poser encore parfois. Je n'ai pas eu de médecin directement dans ma famille proche. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans, j'avais pas d'oncle médecin. Mais je pense que j'ai rencontré des figures, quand j'étais enfant ou ado, qui ont dû m'impressionner. Un médecin, un ORL. Et puis peut-être aussi le fait que quand j'étais au lycée, pour aller au lycée, j'y allais à pied, ici à Strasbourg. Je traversais à pied ce qu'on appelle les hospices civils de Strasbourg, qui sont une véritable ville dans la ville, avec des bâtiments qui datent de la fin du 19e siècle, où il y avait toutes les spécialités représentées là. Et de traverser cet immense hôpital pour rejoindre mon lycée me faisait rencontrer des blouses blanches et ça a dû me pousser à décider très tard, au moment où je passais mon bac, à faire médecine. Après la pédiatrie, c'est venu pendant mon internat, pendant mes stages externes. Il est évident qu'un enfant est plein d'espérance, même s'il a une maladie grave. Et c'est pas la même chose de soigner la même maladie chez un adulte. Ça, c'est évident.
Et alors, comment est-ce que vous avez vécu cette formation? Est-ce que vous aviez des attentes particulières à ce sujet?
En fait, j'ai commencé très vite en me disant qu'il faudrait que je passe le concours de l'internat. Mais il est arrivé quelque chose pendant mes études. J'ai fait ma première année que j'ai eu la chance de réussir du premier coup, j'ai fait ma deuxième année. Et quand je suis parti, quand j'ai terminé ma deuxième année de médecine, j'avais mis un petit peu d'argent de côté pour faire un voyage en fin de deuxième année de médecine. Je m'étais dit, tu vas partir 2 mois et j'avais envie d'aller en Amérique latine. Et c'est ce que j'ai fait. Et à l'époque, on pouvait acheter des billets d'avion open, c'est-à-dire l'aller et le retour, on avait 1 an pour prendre le retour. Et je me souviens que dans la deuxième moitié du mois d'août, j'étais tellement bien quelque part au fin fond du Guatemala que j'ai appelé mes parents et je me suis trompé dans les horaires, le décalage en plus. Donc, j'ai dû les réveiller, il devait être 4h du matin pour leur dire, voilà, c'est maintenant ou jamais. Je suis en troisième année de médecine, donc ne vous inquiétez pas. Je continue mes études, bien entendu, mais je ne vais pas rentrer tout de suite. J'ai envie de continuer, j'ai envie de découvrir le continent latino-américain et peut-être plus loin. Et c'est pas plus tard que je pourrai le faire, quand je serai marié, que j'aurai des enfants, il y aura l'internat après, je pourrai plus. C'est maintenant ou jamais. Alors évidemment, ça les a pas mal effrayés, mais Il savait que j'étais structuré dans ma tête. J'étais pas en train de partir comme d'autres en Inde ou au Népal. C'était vraiment construit et ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a apporté de la connaissance, l'écoute de l'autre, de la différence des autres, des enfants, parce que dans ces pays, l'enfant est partout, omniprésent, joyeux. Plus il est pauvre, plus il est joyeux. Enfin, c'est un peu l'impression que j'avais. Et puis, en restant comme ça un certain nombre de mois, pratiquement une année, j'ai pu aussi un peu aider dans des endroits où il y avait de la médecine humanitaire, dans l'altiplano, quelque part au fin fond du Chili, pour aider. On me disait, ah, vous êtes docteur. Non, je suis juste étudiant en médecine. Ah oui, mais vous allez nous aider. Et ça m'a donné un avant-goût de ce qu'on pouvait apporter aux enfants, pour soigner les enfants.
Incroyable. Et alors, comment est-ce que votre métier a évolué avec le temps à la suite de votre formation? Je sais que vous avez fait évoluer vos fonctions. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus.
Alors, c'est vrai que quand j'ai fait mes voyages, je suis parti à deux reprises. J'ai passé le concours et mon premier semestre, j'avais envie de m'orienter vers la chirurgie. Et j'ai fait... Alors, à l'époque, on choisissait ses stages en fonction de son classement. Moi, j'ai choisi la chirurgie orthopédique infantile et ça me plaisait. Et c'était le côté un peu bricoleur. C'était un bon service, un très bon service où j'étais avec vraiment des bons seniors. Et on réparait les os, les scolioses des enfants, des adolescents. Il fallait désarticuler les vertèbres. Enfin, c'était des opérations très lourdes et qui duraient des heures et des heures. C'était très long. Et j'ai été frustré très rapidement parce que je n'avais pas le contact avec le patient. Le patient, il est endormi. Vous l'opérez, vous le voyez une fois avant de l'opérer, vous le voyez une deuxième fois longuement pendant que vous l'opérez, et puis après, pour retirer les fils, voir si la plaie évolue bien, et puis après, c'est fini, ou à distance, 6 mois après. Et quelque part, ça m'a beaucoup frustré, et c'est là que je me suis dit non, la chirurgie, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai envie d'avoir le contact avec le patient, j'ai envie d'être dans un échange, de l'avoir en face de moi. Et puis, le côté être enfermé dans un bloc opératoire pendant des heures, ça ne me convenait pas trop. Et c'est comme ça que le semestre suivant, je suis allé dans un service d'onco-hématologie pédiatrique.
Très bien. Et donc, vous avez exercé ces fonctions pendant combien d'années?
Alors, l'internat, j'ai fait 5 années d'internat, puisque j'ai fait de la réa aussi. Je me suis spécialisé. Vous savez, en pédiatrie, on peut avoir des sous-spécialités. Et moi, je me suis spécialisé en cardiologie infantile et en réanimation néonatale. Donc, je suis allé aux États-Unis, à Boston, pour faire un stage. Je suis allé à Nancy, au CHU de Nancy. Je suis allé à Necker, à Paris. Et tout ça, mis bout à bout, m'a formé en tant qu'interne pendant 5 ans avant que je prenne un poste de chef de clinique.
Très bien. Et alors, comment se sont passées ces premières années en tant que chef de clinique?
C'était un temps où il n'y avait pas encore eu toute la judiciarisation de la médecine et où les médecins étaient un peu trop des sachants. Ça, c'est vrai. Le médecin va vous parler. Le médecin va vous délivrer et vous écoutez bien parce qu'il ne va pas répéter 2 fois. Moi, je n'étais pas comme ça. Mais beaucoup de médecins étaient comme ça, en particulier dans le monde hospitalier. Et le contact qu'on avait avec les patients, il y avait ce rapport qui existait à cette époque-là, qui fait qu'un enfant, surtout un nouveau-né, n'avait pas mal. Le psychologue, on le prescrivait comme on prescrirait du paracétamol. Enfin, vous voyez, c'était bon, prescrivez-lui du paracétamol. On va lui envoyer le psychologue. On était comme ça, c'était très cloisonné. Et ce qui fait que quand j'ai pris mon clinica, j'étais chef du service de réanimation néonatale et en même temps d'un service d'onco-hématologie pédiatrique. J'avais des internes qui travaillaient dans les services. Et je sais que ce qui me surprenait beaucoup, c'était le fait de cette verticalité, finalement. Et ce qui m'étonnait beaucoup aussi, c'était de ne pas comprendre pourquoi un enfant qui avait un neuroblastome, alors un neuroblastome, c'est beaucoup plus grave qu'une leucémie, on a toujours beaucoup de mal à soigner des neuroblastomes, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et je ne comprenais pas pourquoi dans certaines leucémies ou certains neuroblastomes, un enfant du même âge, diagnostiqué au même âge, avec le même traitement, avec le même poids, la même taille, pourquoi il y en a qui guérissaient et pas d'autres? Et c'est tous les épiphénomènes, mais tout ce qui est épigénétique, tout ce qui tourne, tout ce qui est environnemental, qui entoure l'enfant, et c'est pareil pour l'adulte. Et l'enfant a besoin d'une bienveillance. S'il n'a pas cette bienveillance, il ne peut pas guérir. L'enfant, il a foi dans l'adulte. Et quand vous allez faire mal à un enfant, vous pouvez pas lui mentir. Quand vous allez, c'est pour ça d'ailleurs que dans ma pratique aujourd'hui qui a évolué, mais on y reviendra, quand je vais faire un vaccin à un enfant et qu'un parent dit, oh, pleure pas, t'inquiète pas, le docteur va pas te faire mal. Tout de suite, je reprends le parent. Je lui dis, mais vous devez pas lui dire ça. Si vous lui dites ça, d'abord, je vais lui faire mal. Et ensuite, il n'aura plus confiance en vous. Et la parole que vous lui donnez, elle va être mise en question dans les heures et les mois et les années qui viendront. Il faut que votre enfant continue à avoir confiance en vous. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup à cette époque-là.
Et est-ce que c'est quelque chose, du coup, que vous avez fait évoluer avec le temps, que vous avez essayé d'intégrer dans votre pratique ?
Alors, j'ai fait beaucoup de choses pendant mes études, pendant mon clinica. Il y a des tas de choses que qui se sont faites un peu naturellement. J'ai été élu président des chefs de clinique. Un peu plus tard, j'ai été élu président national des internes. Enfin, ça, c'était avant. J'étais élu président national des internes des hôpitaux, de CHU. Je me suis toujours beaucoup investi dans ma vie professionnelle et dans le rapport qu'il y a entre médecins, mais pas avec une vision corporatiste. Le corporatisme, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur et qui éloigne les gens. Et qui fait que les gens ont des profils de conquérants et ils cherchent à imposer leur point de vue. On l'a vu avec quelqu'un que je ne citerai pas, qui avait une grande habitude de tweeter, qu'on voit moins dans les médias aux États-Unis depuis quelque temps, et c'est tant mieux. Il faut faire une relation, et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans la pédiatrie, c'est qu'il y a cette relation de confiance entre les parents qui sont soit un père, soit une mère. Et là aussi, j'ai évolué. Ça peut être deux mères, ça peut être deux pères, puisque maintenant, j'ai des couples hommes qui viennent me voir avec des enfants. Et donc, le couple, les parents, ou le parent seul, et l'enfant. Et il y a un trio qui s'installe, et ce trio, c'est ce qu'il ne faut pas rater, la mise en confiance. Et chacun, l'enfant, le parent et le pédiatre, s'apportent mutuellement. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire.
Oui. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi consiste le rôle du pédiatre par rapport aux enfants et par rapport aux parents ?
Alors, le rôle du pédiatre, quand j'ai commencé, pour moi, c'était faire le diagnostic d'une maladie, ne pas passer à côté d'un diagnostic, surtout une maladie rare, parce que c'est ça la complexité, c'est qu'on a des maladies qui sont de plus en plus cataloguées, explorées, il y a des classifications qui évoluent tous les ans. Et donc, notre peur à tous, c'est de passer à côté de quelque chose de rare. Un enfant qui vient pour une douleur abdominale, on va l'examiner et tout, d'accord, on va peut-être faire le diagnostic d'appendicite ou d'une intolérance au gluten ou d'autres choses, mais on peut passer à côté d'autres choses. On peut passer à côté d'un syndrome hématologique annonciateur, on peut passer à côté d'un problème de violence sexuelle en intrafamilial, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc, on a ce côté-là. Il faut être vigilant. Et donc, il faut se tenir informé régulièrement, enseigner aux autres et écouter les enseignements des autres. Après, il y a la judiciarisation, j'en parlais tout à l'heure, qui a un peu complexifié notre rôle. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, une maman était venue me voir en consultation avec un bébé qui avait 2 mois. Elle était seule, elle arrive, on devait faire des vaccins. Elle avait oublié les vaccins dans sa voiture. Tout d'un coup, j'ai pas eu le temps de dire ouf, elle m'a tendu le bébé, elle a dit je file dans la voiture chercher les vaccins. Et le temps que je réagisse, elle était déjà partie, et je me suis retrouvé avec ce bébé tout seul. Il y a 20 ou 30 ans, ça ne m'aurait pas posé de problème. Aujourd'hui, je me suis dit, s'il tombe, ou n'importe quoi arrive, elle me fera un procès. Personne n'est témoin. Et du coup, avec ce bébé qui était joyeux, charmant et tout, je suis allé dans la salle d'attente, aussitôt, il y avait là des parents qui étaient là avec leur enfant, et j'ai bavardé avec eux pour avoir des témoins, pour être accompagné pendant ce temps où la maman n'était pas là. Vous voyez un peu comme notre métier a évolué. C'est des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ou 15 ans. Et nous en sommes tous là aujourd'hui. On doit faire extrêmement attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on transmet, aux témoins qui sont là. Quand on examine un enfant, il doit toujours y avoir un adulte qui soit présent ou une porte ouverte si c'est un ado et qui veut être seul. On doit être extrêmement prudent. C'est un côté qui a beaucoup évolué. C'est plutôt bien, ça montre qu'on est attentif, mais ça montre aussi que parfois il peut y avoir des perceptions qui sont pas bonnes.
Ah ouais, c'est fou. Et vous disiez au début que la façon de soigner les enfants est très différente de celle des parents. Pourquoi ?
Alors, moi je dirais que la première des raisons, c'est que même si un enfant a une maladie grave, un cancer des os ou un neuroblastome, c'est un enfant qui est dans l'espérance, constamment. Il pense pas à la mort. Elle est présente. Un enfant qui va mourir, on peut pas lui mentir. Il va vous poser des questions. Il va vous regarder dans les yeux. Il va pas le dire, il va le dire avec ses mots. Un enfant de 13 mois ou un enfant de 18 mois qui a une maladie extrêmement grave est capable de vous dire quelque chose avec ses yeux. Il va sentir que quelque chose se passe. Alors je dis pas pour un enfant qui a 6 ou 7 ans, c'est encore plus fort. Mais l'enfant va être dans l'interrogation et dans la confiance vis-à-vis de l'adulte. Donc, je dirais que l'enfant a un corps sain. C'est-à-dire qu'il a une maladie particulière, à la rate, au foie, dans les os ou ailleurs, ou une tumeur au cerveau, mais le reste de son corps est sain. Les vaisseaux sont bons, la tension est bonne, le cœur fonctionne bien, il n'y a pas encore de plaques d'athérome qui sont installées sur les artères. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas encore de l'obésité, il n'y a pas tous ces facteurs de risque qui vont polluer le corps et qui vont finalement accompagner l'adulte vers ce qu'on appelle des facteurs favorisants qui vont limiter la guérison pour le traitement qui peut être le même pour un adulte. L'enfant a cette proportion-là et ça, c'est important. Donc, je dirais cette réversibilité et ça, c'est vraiment important. Ensuite, un enfant, pour peu qu'il soit bien accompagné, c'est et vous voyez très bien de quoi je parle parce que vous savez ça aussi bien que moi. Un enfant qui est bien accompagné, qui a de bonnes figures d'attachement autour de lui, qui a, je n'ai pas envie de dire des codes, mais qui a de bons éléments qui l'entourent, des bonnes ondes, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un enfant qui, inévitablement, sera dans un meilleur cocon pour avancer dans la vie, bien sûr, mais pour guérir aussi et pour se laisser soigner. Et l'adulte, c'est différent. L'adulte, il a des peurs. Avant même qu'on lui fasse le traitement, il va poser plein de questions. Il va dire, ce vaccin, j'en veux pas parce qu'il y a des adjuvants dedans, c'est que ça va me donner un cancer. Je veux pas ce traitement parce que la copine du voisin du dessus m'a dit qu'elle, elle avait attrapé la sclérose en plaques ou autre chose. Donc, on est dans des peurs et qui sont, mais alors, exacerbées à l'infini depuis quelques années, avec les réseaux, et à telle enseigne que les gens, moi je suis très surpris de voir les questions que posent parfois les gens quand je fais des Facebook Live ou autres, mais parfois je suis étonné par le niveau de certaines questions, je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est une caméra cachée, et non, c'est pas une caméra cachée, les gens vraiment posent des questions alors que s'ils s'écoutaient eux-mêmes, mais ils ont la réponse en eux. Et il y a une telle angoisse, donc ça joue dans l'évolution d'un adulte, dans son processus de guérison, c'est évident. Il y a d'autres facteurs, bien entendu, bien environnementaux ou autres, mais je ne vais pas m'étendre dessus.
Et alors, est-ce que vous trouvez que les parents transmettent cette angoisse aux enfants ?
Oui, complètement. Vraiment complètement. Alors, ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un prochain livre, un chapitre, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Alors, le nouveau-né, je connais bien. Les grands prématurés, je connais bien parce que j'en ai vu beaucoup, j'en ai réanimé beaucoup. Et ça a toujours été très mystérieux pour moi, le nouveau-né. Le nouveau-né, le grand prématuré, c'est extrêmement mystérieux parce que quand on commence à travailler sur les nouveau-nés, évidemment, il y a les pathologies, il y a tout ça. En plus, à l'époque, quand j'étais chef de clinique, on essayait de voir, c'était l'époque où on voyait jusqu'où on pouvait réanimer les nouveau-nés, s'il y avait des limites. Donc, il a fallu qu'on aille jusque-là pour voir à quel moment on s'arrêtait de réanimer tel grand prématuré ou pas. Donc, c'était une période difficile. Et c'est très mystérieux, un nouveau-né, parce que un nouveau-né parle, un nouveau-né s'exprime. Et ça, il faut une expérience, il faut beaucoup de recul pour s'en rendre compte. les 1000 jours, les fameux 1000 jours, vous connaissez ça, les neurosciences qui ont fait énormément de progrès dans les 20 dernières années et qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi le nouveau-né va reconnaître le lait de sa maman plutôt qu'un autre? Pourquoi le pot à pot est aussi important? Et d'ailleurs, c'est vraiment le sens le plus développé chez le nouveau-né, c'est le pot à pot, c'est le contact, c'est-à-dire le toucher. Et c'est vrai que le nouveau-né, il écoute, il entend et il parle. Évidemment, il ne parle pas notre langage, mais il parle avec ses gestes, avec ses émotions, ses trémulations, les yeux qui s'écarquillent, des réflexes archaïques qui sont présents et qui vont peu à peu disparaître avec le temps, la manière dont il va les intégrer, etc. Et l'exemple que je voulais donner, c'est quand je vois parfois, ça m'arrive une ou deux fois par semaine, de voir des jeunes parents arriver en consultation avec un nouveau-né qui a 15 jours de vie ou un mois ou peut-être un mois et demi. Et le bébé est dur comme du bois, tendu, mais comme c'est pas possible. Je vois des parents stressés qui ont déjà un peu des cernes sous les yeux, il y a des problèmes de sommeil, de rythme des tétés ou des biberons, enfin tout ce qu'on veut, il y a toute la collection. Et le bébé a tous les symptômes. Il vomit, il est constipé, il est pâle, on frise l'urgence chirurgicale presque. Et avant de me précipiter, alors je l'examine, avant de me précipiter sur la demande d'examen complémentaire, de radio, de scanner ou autre, je fais parler les parents. Et très souvent, je trouve une histoire. Pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, un accouchement médicalisé, un décès qui a eu lieu, une maladie, ou que sais-je, un divorce, ou je sais pas, ou... enfin, une histoire. Et cette histoire, elle est un peu enfouie, ils n'ont pas forcément envie d'en parler, mais elle est la cause de l'état du nouveau-né. Et nombre de fois, grâce à ce que les parents ont bien voulu me délivrer, c'est là qu'on voit que c'est important cette confiance qui s'installe. Pour nous, pédiatres, il est extrêmement important d'en savoir un peu plus sur le papa, la maman, leur histoire. On y va progressivement, mais parce que, inévitablement, le bébé étant un buvard, le bébé va réagir en fonction de ce qu'il ressent chez les parents. C'est une éponge à émotions. On a souvent l'habitude de dire ça. Eh ben, ça, je le confirme. Et c'est notre rôle d'éminer, d'écouter. Et puis, en général, les choses après s'arrangent assez rapidement. Oui.
Et justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est que on a quand même l'impression que le rôle du pédiatre tend de plus en plus vers également un accompagnement émotionnel. Est-ce que vous venez de dire l'illustre complètement ?
Alors, c'est assez interpellant comme question, parce que j'ai des confrères qui ne veulent pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, parfois, j'ai des parents qui viennent vers moi en me disant « Mais vous, au moins, vous nous écouterez. Vous, au moins, vous n'allez pas me traiter de folle. » etc. Et je suis assez étonné. Et c'est vrai que j'ai des confrères, et je vois quand on a des réunions régulièrement entre médecins, pédiatres, j'ai des confrères qui ne veulent pas s'embarrasser de ça. Eux, ils sont là pour soigner, dépister une maladie, faire le diagnostic, donner le bon traitement, et puis basta, et on passe à autre chose. On ne peut pas les en blâmer, c'est notre rôle de soigner. Sauf que, effectivement, soigner uniquement avec des médicaments, ça ne suffit pas. Il faut accompagner les parents. Et je pense, et c'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup, je pense que quand j'étais en début de ma carrière, je devais être un peu comme ça. J'étais le médecin chercheur, le médecin qui doit trouver, le médecin qui doit avoir la compétence. Ensuite, on va faire des publications. Ensuite, on va en parler dans les congrès. Ensuite, on va en parler au staff, etc. Et je pense que, inévitablement, avec l'expérience qu'on a hospitalière et dans les cabinets, c'est incontournable, à un moment donné ou à un autre, de prendre l'enfant dans son entièreté, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que le physique. Il y a le moral, le mental, le psychisme chez l'enfant, et nombre de maladies se développent chez l'enfant. J'ai pas besoin de faire en détail, mais les troubles du sommeil, les douleurs abdominales, les migraines, les troubles, les ralentissements de la croissance, le retard des règles chez la fille, l'anorexie, etc., etc., etc. On est obligé, chez ces êtres-là qui sont en pleine construction, surtout entre 0 et 4 ans et ensuite de nouveau entre 10 et 15 ans, on est obligé de tenir compte de cette dimension psychologique, c'est évident.
Et l'une des autres évolutions que vous m'aviez évoquées lorsqu'on s'est appelé pour préparer l'épisode, c'est la gestion de la douleur des enfants. Et vous m'aviez raconté une histoire qui m'avait assez interpellée justement sur le fait qu'il y a quelques années, on pouvait entendre que les bébés ou les enfants ne ressentent pas la douleur. Peut-être que vous pourriez parler de ça aussi.
Alors, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris quand j'étais externe. Mais quand on est externe, on s'en rend un peu moins compte parce qu'on n'a pas de responsabilité. On est là, on assiste. Bon, ça fait un peu peur, quelqu'un qui pleure parce qu'il a mal et tout ça. Mais quand j'étais interne et que je devais faire une ponction lombaire à un nourrisson ou à un nouveau-né parce qu'on suspectait une méningite ou autre chose, eh bien, ce qui était notre préoccupation principale, c'était de bien choisir l'infirmière, la péricultrice, celle qui sait tenir le bébé parfaitement bien, complètement coincé, les genoux relevés contre le torse, les épaules coincées vers l'avant, les bras mis de part et d'autre des genoux repliés, la tête en avant coincée par le deuxième bras de l'infirmière, le tout posé sur les genoux de l'infirmière qui vous fait face et vous, vous êtes derrière à désinfecter le dos doit être parfaitement rond au bon endroit, pour qu'on voit bien la vertèbre, les deux vertèbres où on va piquer pour faire la ponction lombaire et récupérer le précieux liquide. Et il ne faut pas que l'enfant bouge. Sinon, on ne va pas piquer au bon endroit, ça peut lui faire encore plus mal et surtout, on va rater la ponction lombaire, etc. Et du coup, évidemment, le bébé, le nourrisson se débat. Il a mal. D'abord, il est contraint, il est bloqué et un nouveau-né n'aime pas ça, personne n'aime ça. Et deuxièmement, il a mal au moment où je le pique. Eh bien, à cette époque-là, on se disait, il pleure parce qu'il est coincé. Et non pas, il pleure parce qu'il a mal ou qu'il a un mal-être. Et heureusement, les choses ont bien évolué depuis. On a commencé à prendre en charge la douleur des enfants. Maintenant, vous voyez, par exemple, dans les maternités, quand on fait les prélèvements des trois premiers jours pour dépister des maladies génétiques rares, les fameux tests de Guthrie, on ne prélève plus sur le talon en pressant comme un malade et puis le pauvre enfant, il pleure. Et finalement, plus il pleure, mieux c'est. Comme ça, il augmente sa tension et le sang vient plus vite. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Eh bien, on en était là il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on prend soin du nouveau-né, on le fait téter un peu avant de le piquer, on lui donne un petit peu d'eau sucrée et il ne pleure pas, il n'a plus mal. Quel progrès!
Oui, c'est incroyable. Et peut-être que Sylvie, tu peux nous partager rapidement ton expérience avec Noémie, ma sœur, qui a eu sa leucémie quand elle était jeune. Je ne sais pas si ce qu'Arnaudie résonne en toi, je suis sûre que oui.
Oh, oh mon Dieu, oui. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Je vois, c'est arrivé il y a 30 ans et je m'en souviens toujours de ces fameuses ponctions lombaires où on les coince et on dit aux parents surtout de ne pas être là, d'être bien loin. Donc déjà, c'est ça. L'enfant, il se retrouve tout seul, il crie parce qu'il a pu ses parents, et puis après, nous, de l'autre côté, on lui entend hurler. Oh, mon Dieu! Et même, bon, après, je parle même pas des ponctions de moelle, où c'était pire, à travers l'os et tout ça, où on disait, ben non, on les anesthésie pas parce qu'ils ressentent pas trop la douleur. Puis 3 ans plus tard, ben on dit, bah si, maintenant, on le fait plus comme ça parce qu'on, c'est insupportable. Donc, je suis heureuse d'entendre que les choses, elles ont évolué parce que c'était vraiment un enfer, quoi. Un enfer pour l'enfant, un enfer pour les parents. Et comme vous disiez, je pense qu'il est important que les parents entourent bien l'enfant. Et si on a trop d'angoisse, justement, de douleur et de choses comme ça, c'est terrible. Donc, je pense que c'est très, très important si on peut se rendre compte que tout ça, ça a évolué, c'est formidable.
C'est certain. Et Arnaud, tout à l'heure, vous parliez de, je ne sais pas si on peut l'appeler de nouvelles pathologies, mais en tout cas de pathologies qu'on voit de plus en plus chez les enfants, donc notamment liées à l'anxiété, l'angoisse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous voyez vraiment une augmentation de ces pathologies-là chez les enfants? Et est-ce que vous arrivez à identifier pourquoi?
Alors, on a beaucoup de troubles du comportement alimentaire, les TCA, beaucoup. Évidemment, avec la période Covid, ça n'a pas forcément arrangé les choses, mais oui, on a de plus en plus de troubles du comportement alimentaire. Et je pense qu'il y a un message qui n'est pas bon du monde adulte vers l'enfant. On tombe dans beaucoup de familles dans une injonction. Tu n'auras pas ton dessert tant que tu n'auras pas fini ça. Il faut que tu termines ça. Moi, l'adulte, je sais ce qui est bon pour toi. Et ce sont des schémas qui existent encore et qui vont tout droit mener l'enfant dans des troubles, vers les troubles de l'oralité. Et on voit ça déjà chez des nouveau-nés. Donc ça, les troubles de l'oralité à telle enseigne, tenez-vous bien, c'est que maintenant nous travaillons avec des orthophonistes pour des nouveau-nés. Vous vous rendez compte?
C'est fou.
Orthophonistes pour des nouveau-nés. Des orthophonistes qui s'installent, qui ont une pratique hospitalière ou libérale et qui sont formés pour les troubles de l'oralité chez les nouveau-nés et les nourrissons. C'est quand même nouveau. Alors c'est bien qu'ils soient là, qu'ils fassent ce job, mais on sent des parents démunis et qui ne sont pas dans un bon discours. Un autre exemple, c'est l'éclatement des familles. Alors, ça avait du bon dans un sens. C'est vrai que des jeunes parents doivent s'affranchir de leurs propres parents. Et quand on est parent, la première chose à laquelle on doit penser pour son enfant, c'est la bienveillance, bien sûr, mais c'est surtout son autonomisation. Un enfant doit s'autonomiser assez rapidement. Or, c'est antinomique avec ce que pense le parent. Le parent, souvent, il a envie que son enfant reste un petit bébé, qu'il reste son petit enfant à lui, il a envie de le couver, il a envie de faire les choses pour lui, il a envie de donner son rein pour lui, s'il en a besoin, il a envie de mettre des couvertures partout ou des airbags partout pour que s'il tombe, il ne se fasse pas mal. En fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut que l'enfant ait du désir, qu'il ait envie de quelque chose, qu'il ait envie de s'opposer un peu, qu'il apprenne à dire non. C'est pas pour rien qu'entre 2 et 3 ans, la fameuse période des terribles tout, les enfants disent non, ils ont besoin de ça pour se construire. Il ne faut pas tout leur mâcher le travail. Et si c'est le cas, si on fait trop pour eux, ils ne prennent pas confiance, ils ont du mal à grandir, à s'autonomiser, et on le sait maintenant, ça donne des adultes qui montrent une certaine instabilité dans leur vie professionnelle ou dans leur vie de couple. Et ça, on le voit de plus en plus. Alors, est-ce que c'est les médias? Moi, je pense que les médias, ils sont pour beaucoup. Beaucoup. Et quand je vois, bon, moi, j'ai la chance d'être chroniqueur dans une émission sur France 4 et je vois les retours des parents, mais je m'aperçois, vu à la télé, c'est ahurissant le poids de ce qui passe à la télévision. Alors, nous, dans cette émission, on passe des choses de toutes sortes, mais qui sont vérifiées et qui sont, c'est du sérieux. Mais vous imaginez tout le reste, tous les réseaux, et les gens ont cette habitude de faire du rapide, du TikTok ou de l'Instagram, ils n'ont pas le temps, et c'est parole d'évangile, et pour eux, c'est la vérité. Et on le voit d'ailleurs dans la notion de l'image, les jeunes filles qui de plus en plus deviennent véganes, il y a quand même 13% des jeunes filles qui sont véganes maintenant, et ça augmente. Et les garçons s'y mettent pour faire plaisir à leurs petites copines, et personne ne sait ce que c'est que le véganisme. Ils s'y mettent parce qu'il ne faut pas faire mal aux animaux. Ça part d'un bon principe, mais il faut en parler, il faut aller un peu plus loin. Et tout ça, ça crée des nouvelles pathologies. Des pathologies un peu psychosomatiques, mais pas que. Parce qu'il y a d'autres pathologies, il y a les perturbateurs endocriniens, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a aussi des pathologies qui sont plus nombreuses maintenant, des cryptorchidies, des garçons qui ont des testicules qui ne descendent pas dans les bourses, des garçons qui naissent avec le méa urinaire, là où sortent les urines au bout du pénis, ben, au lieu d'être au bout, c'est en dessous, sur la verge, donc il faut opérer. Chez les filles, on a des précocités pour la puberté et plein d'autres choses qui font que oui, on a des nouvelles pathologies qui sont liées à notre mode de vie, à nos environnements, à beaucoup de choses. Il faut faire avec. Et puis, dans 50 ans, il y aura encore d'autres choses. Ça évolue. Il y a aussi des pathologies qu'on n'a plus. Donc, il faut aussi être positif là-dedans. Il faut aussi être positif.
Oui. Alors, on se demandait, vous recevez beaucoup d'adolescents en tant que pédiatre?
Oui. Alors, le pédiatre suit les enfants de la naissance à l'âge de 16 ans. Et pourquoi 16 ans? Parce qu'on considère que la croissance se termine à 16 ans, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que les deux périodes très importantes pour suivre les enfants, c'est 0-4 ans, parce que c'est la première phase de croissance rapide de l'organisme, donc c'est là que tous les dangers sont possibles, donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et la deuxième période, je disais tout à l'heure, c'est la période de 10 à 15 ans, où là aussi, ça redémarre avec la puberté, les hormones, l'adolescence, la mue, la transformation du corps, etc. Là aussi, c'est une période de tous les dangers où pas mal de pathologies peuvent apparaître. Après, les enfants, on les voit moins parce que l'ado, voilà, il n'a pas tellement envie d'aller chez le médecin. Et puis surtout, il tombe rarement malade. Mais j'ai régulièrement des grands de 16, 17, 18, 19 qui m'appellent en me disant « Ah, docteur, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous me prenez encore ?» Et ça fait hyper plaisir parce que j'en vois régulièrement 2-3 par semaine qui ont 19, 20, 30, 22, 23, qui font leurs études, qui font une prépa, machin, et qui sont contents, qui sont en confiance avec celui qui les a suivis depuis toujours. Oui. Parce qu'il y en a qu'on suit comme ça pendant très longtemps. Et puis après, ils viennent avec leurs propres enfants et ça, ça fait plaisir.
Oui, ça c'est magnifique. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien et j'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais je vais me retenir. Je me dis que pour terminer cet épisode, je ne sais pas si vous auriez peut-être des derniers conseils à donner aux parents par rapport à leur relation avec le pédiatre ou justement tout ce qu'ils peuvent transmettre en termes d'angoisse, d'anxiété à leurs enfants. Peut-être des derniers conseils à leur donner là-dessus.
Moi, je dirais, il ne faut pas se projeter sur son enfant. Très souvent, on se projette sur son enfant. Alors, ça va chercher pourquoi on fait un enfant. Ça va chercher très loin. Son enfant, c'est un nouvel être. C'est pas soi. C'est pas le père, c'est pas la mère, c'est pas la grand-mère. C'est un enfant, c'est un être unique. Et à partir de là, on n'est pas propriétaire de son enfant. Et ça, je le rappelle souvent aux parents. Pas évident hein, à accepter, mais on n'est pas propriétaire de son enfant. Il est dans la famille, on l'accompagne, on lui donne de la bienveillance et surtout, on lui donne confiance en lui. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut l'écouter. Et je dirais que trop souvent, je vois des parents qui sont dans une obligation de résultat pour la propreté, pour marcher, pour s'autonomiser de la tétine, pour le sevrage de l'allaitement. C'est tout le temps des angoisses que se créent les parents, alors que le plus simple, c'est d'écouter l'enfant. Il a des choses à dire. Il faut le regarder, l'écouter, et du coup, il va mieux se construire. Et je crois que c'est vraiment ça. Si on arrive à faire passer ce message-là, et bien sûr que les parents s'écoutent eux-mêmes aussi, qui créent bien ce triptyque de parents, enfin les parents et l'enfant, et qui se retournent pas en permanence vers Internet ou voire même vers leurs propres parents, qui parfois peuvent donner un message qui est peut-être pas forcément le bon. Il faut s'autonomiser. Chacun doit s'autonomiser. À la naissance d'un enfant, il y a un bébé qui naît, mais il y a aussi deux parents qui naissent. Je crois que c'est ça qu'il faut dire.
Oui, c'est très beau et c'est très vrai. Merci beaucoup Arnaud pour votre temps et pour ce partage magnifique. On était très heureuse de vous avoir au micro des adultes de demain.
Ben moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.